Dans l'émission précédente, vous parliez des signes de reconnaissance, Jean-Luc Godard, et c'est vrai que quand Pierrot le Fou est sorti, dans les temps qui suivaient, on avait des phrases du film.
Mais disons, c'est une histoire qui n'est pas lue, qui est d'abord souvenue, qui est venue souvenue, qui est sous-entendue, entendue sous, et dont la phrase vient après, car moi ce qui m'a frappé aussi toujours à la longue, c'est mon propre travail, comment ça se fait, car la première, j'ai fait un plan, ensuite je n'en ai plus fait, parce que j'ai vu que je ne suivais pas ce plan. Par contre, j'ai gardé une idée et les titres. Pas de raison de changer, ça sera un peu ça, sans trop savoir, mais je sentais sensation vaguement. Et j'ai vu très vite dans la première que j'ai suivi un peu mon plan, comme on dit, un scénario, et que j'oubliais, si on peut dire, la mise en scène, et que je cherchais en souvenir de la nouvelle vague et de ce que Rivette appelait la mise en scène, qui a disparu aujourd'hui. Il y a plus de. Il y a un accomplissement du scénario. Et
Une illustration à la limite.
on met en place, on ne le met pas en scène, on met en place. Et que quand on travaillait, à des moments, il suffisait de mettre une photo ou un plan, ou de regarder, de faire le choix, et qui était pourquoi choisir de mettre la photo de mettons, le Vigan
La Bandera.
dans la Bandera. Ou dans les bas-fonds, et une photo de Le Vigan à son procès. Il est évident que si on met la photo à son procès, ce n'est pas à cause du procès après la libération comme ça, c'est sur les chemins. Mais que la photo ne dit pas la même chose. Elle ne dit même pas la même chose de Le Vigan. Tandis que si on met le plan du film, c'est autre chose qu'on dit. À ce moment-là, on doit réfléchir, que mets-je? Que vais-je mettre? Puis après, quand on en a mis un, j'ai déjà prévu les cassettes qui vont être, et puis je m'aperçois que c'est pas qu'on ne peut aller qu'à autre chose, et qu'il faut le trouver. Et alors ça, la technique vidéo est bien, puisqu'on peut facilement réeffacer et
Parce que
recommencer.
les cailloux
Mais
sont plus
combien?
forts que la volonté.
Mais alors là, c'est plus proche de la peinture.
Oui, les cailloux
Où on se rend
obligent à.
compte, on dit j'ai passé une bonne journée, le lendemain matin on regarde ce qu'on a fait et on
Absolument.
réefface tout.
Absolument. Mais ce qui m'avait frappé, donc, c'est que ce jeu de citations qu'on peut voir sur les films était une complicité d'ordre ludique, un peu comme les
Au
enfants
début,
le
oui.
font.
Et puis
Et
après,
après, il y a
c'en
eu le
est.
fétichisme. Et
Après,
vous,
c'est.
c'est jamais fétichiste. Vous avez essayé d'éviter le fétichisme dans ces plans, dans tout ce que l'on voit.
Non, parce que c'est l'archive elle-même. Et. Alors au début, je n'ai mis que des films que j'aimais. J'ai presque gardé ça jusqu'à la fin, en mettant de temps en temps, s'il le fallait, un plan d'un film que je n'aimais pas.
Quand vous dites
Mais
des
j'ai
films que
gardé.
j'aimais, je dirais des scènes que vous
Mais
aimiez,
si
ou des
j'avais un
plans.
choix entre un plan ou une scène ou quelque chose d'un film, mettons de John Huston que j'aimais moyennement, et un plan d'Hitchcock, si après je passais beaucoup de temps à essayer de dire non, il faut que j'enlève Huston et que je mette quelque chose qui puisse faire pareil, mais pas d'Huston.
Oui, mais c'est vraiment aussi votre histoire, parce que ce plan qui revient dans plusieurs heures du cinéma de John Wayne prenant Natalie Wood dans ses bras, à la fin de The Searchers, vous en aviez parlé dans un article, dans un texte journal, dans les cahiers une fois,
Oui.
que vous admirez, vous détestiez John Wayne, si vous présentez, mais vous l'admiriez
Mais
comme
au
c'est ça, et ça
début,
revient, ça revient, ça revient.
au cahier, il y avait une discussion, c'était Bazin qui avait ça, ah bah Ford, vive Villers. Le classique, c'était Ford. Pour Bazin,
Oui, elle était
Villers
moderne,
était
quoi.
le moderne, un faux gars. Et puis après, c'était entre Ford et Hawks. Et moi, j'étais en fait un Fordien, sans le savoir, et Hawks, mais j'étais abasourdi par tout ce qu'en disait Rivette ou Romer ou tout ça, qui étaient un peu quand même des bons élèves par rapport à moi. Et j'ai mis beaucoup de temps à aimer,
Amé Hawks.
à apprécier à, alors j'admirais, j'apprécie toujours, mais à des moments, sentimentalement, je préfère un peu Ford, surtout les Ford de la fin. Surtout les Ford, je trouve les Hawks du début. Sont incomparablement meilleurs que certains Ford du début, même dont on dit du bien, jeune Monsieur Lincoln est pour moi un moins bon film que Seuls les anges ont des ailes. par exemple, nettement moins bon. Par contre, la prisonnière du désert ou les cavaliers est plus beau que quand même les derniers Hawks, et aussi beau que Rio Bravo. Il y a quelque chose de, il est, je dirais même postérieur, presque plus jeune, comme ça, voilà, c'était...
Mais peut-être parce
Il y avait cette idée-là. Et je me suis aperçu, mais ça c'était con, que finalement, ce plan de la prisonnière du désert de John Wayne, qui soulève Nathalie Wood...
Un bout de bras d'abord et après la porte dans
mais
ses bras.
Je l'ai mis 5 fois.
Oui,
il est presque dans toutes les émissions,
c'est pour ça,
à des moments... Et même dans le dernier, je suis très content parce que j'ai pu le faire revenir en arrière. J'ai dit, et que c'est Nathalie Wood qui se retourne pour voir John Wayne. Son père presque, ou son oncle, et que c'est les Atrides aussi, et que c'est beaucoup de choses comme ça.
Et peut-être parce que chez Ford, il y a cette idée dont vous êtes un défenseur de l'enfance de l'art. Je crois que Ford était très très intelligent, mais il avait une volonté, je dirais presque, disons, de la sensation absolue, je veux dire. Et un film, par exemple, aussi étonnant que L'homme quitte la liberté Valence,
voilà.
Il faut réfléchir dessus pour voir si c'est un film politique absolu.
C'est le film où les deux se rejoignent, du
voilà.
reste.
Le politique absolu.
Il pourrait être signé et par Hawks, et du reste les gens les confondent
toujours.
Souvent, il pourrait être signé et par Hawks et par Ford. C'est un cas assez rare.
Qui est un film qui est politique avant tout quand on l'analyse, et que quand on le voit, c'est le western type qu'on a envie de lire en bande dessinée, de voir être en gosse. Et là, il y a une force extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est aussi un film en noir et blanc. Et là, on peut se demander si les cinéastes qui ont le plus été les poètes maudits, qui ont réussi dans le cinéma, comme vous dites, il y en a beaucoup, c'est peut-être parce qu'ils avaient connu le noir et blanc et travaillé en noir et blanc.
Certainement.
Comme s'il y avait une initiation du noir et blanc, de la lumière, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais
certainement, c'était la fin de la brève histoire de la photographie aussi.
Parce que quand on... Je n'imagine pas les premiers films de Murnau ou de Fritz Lang...
Et de la...
Ou de Griffith.
Non, et de la gravure, c'est quand même la suite. De la gravure, de Rembrandt, de Dürer, de Doré...
Et alors dans votre film justement, dans les histoires, quand vous avez un plan que vous avez tourné comme Cuny disant un texte.
Mais quand je l'ai tourné, je ne savais pas du tout. J'avais une idée d'après scénario, je savais que puis après il a dormi pendant 5-6 ans, il est resté.
Oui, mais il est filmé comment ?
Il est resté, j'en avais filmé deux ou trois, un plan d'Azema comme ça, un plan de Cuny. Puis même une petite scène entre Binoche et Cuny.
Mais vous vous rappelez comment vous le filmez, Cuny, quand il lit ?
Il est en quasiment du noir et blanc couleur.
Un noir et blanc couleur, on ne voit pas son visage,
voilà,
il y a un jeu d'ombre. Comme si c'était le retour à cette enfance de l'art quand il lit. Et il le lit presque comme un enfant. Je veux dire par là que c'est la voix de Cuny qu'on connaît, mais il continue la phrase un peu comme un enfant qui joue.
Il déchiffre aussi.
Oui,
il déchiffre. En fait, il déchiffrait aussi. Il déchiffrait parce qu'il ne l'avait pas préparé. Il déchiffrait, mais ses acteurs savaient lire.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi...
On oublie tout. Là, ces bouquins dont on parlait, qui ont été écrits de 1920 sur le stalinisme ou de 1930 sur Hitler, qui ont été connus, on n'y a pas fait attention parce qu'on ne savait pas lire.
Oui, peut-être.
Non, mais on lit quelque chose avec une opinion. On ne découvre pas la lecture et on le redécouvre après.
Oui, mais c'était aussi l'époque de la lecture du pamphlet ou des textes pamphlétaires. C'est-à-dire que les gens lisaient le pamphlet avec qui ils étaient d'accord, en quelque sorte, et s'y fondaient.
Et que ces livres, peut-être, n'étaient pas très bien écrits.
C'était pas polémique.
C'était pas polémique, c'était pas Jules Vallès. Jules Vallès, on s'en...
Il dit rien.
Même si les gens s'en souviennent plus, ceux qui l'ont lu s'en souviennent.
Absolument. Ni Darien, ni quelqu'un qui prenait La Belle France de Darien, c'est un livre d'une modernité aujourd'hui incroyable, mais c'est parce que justement, il y a le ton pamphlétaire dedans. Et alors là, peut-être que le pamphlet, justement, rouspété, comme disent les gosses, C'est une chose que le cinéma a peu connue dans son,
il a pas fait la
dans,
télé...
dans cette fonction.
La télévision aurait pu, ou la radio. La radio, on peut imaginer que... Ben non, on ne peut pas imaginer, parce que ça ne fait pas... Mais qu'à la radio, il y ait de grands... Mais ça serait de grands pamphlétaires. Mais on ne peut pas l'imaginer, parce qu'ils ne sont pas là.
Non, ou alors ils seraient face à face en s'interrompant sans cesse. Donc le pamphlet n'aurait pas lieu, car le pamphlet a besoin de sa durée et de sa construction. Autrement, c'est de l'hystérie.
Voilà, mais on s'en souvient encore un peu. Les gens se souviennent de Marchais à la télé.
Oui.
Ils ne se souviennent pas de Marchais.
Parce que c'était le sale gosse.
Comme de secrétaire, absolument.
C'était le sale gosse. Bon. Et là, on revient à cette idée d'enfance de l'art. Moi, j'aime beaucoup cette idée parce que je crois que, justement, votre génération et la mienne, peut-être différemment des jeunes générations qui ont eu la télévision, eux, d'abord. Nous, on a rencontré le cinéma dans notre enfance sans savoir ce que c'était.
Adolescence.
Oui, ou enfance ou adolescence. Et on a rencontré... Enfant, vous avez dû voir des dessins animés, peut-être Blanche-Neige.
Blanche-Neige. Moi, c'est venu très tard, le cinéma, bien après.
Vous n'aviez jamais vu de film,
si, enfant? Si, si. J'ai vu Elephant Boy, j'ai vu... j'ai vu... Si, si, je me souviens, comme d'autres, certains films, mais ce n'était pas... C'était aussi un mal dimanche, j'ai vu les Charlots à l'école. Bon, c'était ça. Pendant la guerre, on voyait des films, je me souviens, des films de guerre anglais. Je me souviens des petites comédies italiennes que mon père aimait beaucoup, avec un personnage qui s'appelait Scampolo, qui était une petite bonne italienne. Mais bon, c'était... C'est pas, c'était comme aller, c'était comme le cirque ou c'était autre chose. C'est venu bien après, j'ai toujours trouvé bizarre les gens comme le Louche qui disent un jour j'ai vu un film de Chaplin, il avait 4 ans et puis après il a décidé qu'il ferait du cinéma.
Ça, non, ça non.
J'y crois pas.
Mais moi, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que j'avais 4 ou 5 ans.
Quand ça, c'est l'histoire très personnelle de chacun.
Oui, mais là, c'est très curieux, c'était 4 ou 5 ans, c'était 49. Et j'avais vu, il y avait un cinéma de quartier à Lille où j'allais, et j'ai découvert Remontons les Champs-Élysées, là, gosse. Et après, dans ma tête, je mélangeais les choses, c'est-à-dire que c'était une famille. Marais était le fils de Jean Gabin, qui devait être le frère d'un tel. C'est-à-dire que j'avais un regard d'enfant sur toutes ces choses qui m'arrivaient comme ça sur un écran. Et je pense que c'est une situation qui était paternalisée par d'autres gens, mais je pense que tout le monde a dû ressentir ça à cette époque des enfants, et qui est perdu maintenant.
Chez François Truffaut, ça a été, lui, ça a été un vrai début. Il s'est mis à aller beaucoup au cinéma parce que c'était une sortie, un truc, il pouvait traîner, un truc comme ça, et ça a été comme ça. Moi, ça a été rien. Puis tout à coup, à un moment, c'est devenu ça, mais relativement un peu tard avec les... Ça a commencé par une revue, mais ça a commencé par la revue du cinéma. Mais le déclic qui a fait que je me suis intéressé à ça plutôt qu'à la peinture ou à d'autres choses, que je suivais, que j'aimais, j'ai senti une sorte d'appel, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est venu de la revue du cinéma.
Mais vous ne pensez pas que...
La revue de...
Jean-Georges Auriol.
De Jean-Georges Auriol, la revue...
Avec Daniel Valcroft.
La revue jaune...
D'après-guerre.
De chez Gallimard, oui.
Vous ne pensez pas qu'il y a aussi le rapport à cette enfance de l'art et au cinéma, vient aussi des époques. Ma génération, moi, c'était l'époque où le néo-réalisme éclatait, où il y avait un tas de les comédies musicales en couleur
arrivée.
Mais
arrivées. Oui, mais c'est à ce moment-là. Donc ça frappe. Moi, je me souviens, j'habitais dans la montagne et je descendais à pied. Je me souviens, j'ai vu Chasse tragique comme ça parce que je l'avais lu ce mot dans une critique de cette revue du cinéma. Et c'était ça. Mais l'enfance de l'art, il faut. Le cinéma est remonté très loin, puisque dès qu'il a commencé, très vite, il est remonté aux Grecs, il est remonté encore avant et comme ça, et il s'agissait de tout reprendre. Et il a tout repris très vite, beaucoup plus vite que la photo, toutes les histoires. C'est pour ça que ma première... il a raconté en 20 ans, il a raconté tout, du Christ au dinosaure, tout, il a repris tout ça. Donc c'était l'an... Il y a ce côté, il est revenu dès le départ, il est parti avec son enfance.
Et le livre d'images.
Si vous voulez, Delacroix n'est pas parti à l'enfance de la peinture. Absolument. Picasso a essayé,
oui.
Mais il a essayé parce que c'était son caractère ou son truc. Picasso a fait ça aussi, puis après c'est devenu un peu plus conscient. Mais les autres, non, c'est pas. Proust n'est pas revenu n'est pas reparti comme Beckett après, comme ça. Mais c'était lié à l'époque et tout ça. Le cinéma l'a fait tout à fait, je sais pas si j'ose dire, naïvement. Naïvement, mécaniquement.
Mais c'est peut-être aussi
Donc ce côté enfance, moi je l'ai gardé, hein,
que. Mais vous pensez pas, Jean-Luc
je l'ai
Godard,
gardé
que.
comme une philosophie même. C'était l'enfance de l'art. Les autres ont été adultes dans leur art, tout de suite, quand ils étaient enfants, ils allaient peindre des modèles sous la direction de David ou de
Il partait de
Ingres ou de
l'académisme.
X, à l'académie. Ils partaient de l'école. Le cinéma n'est pas parti de l'école, il est parti de l'enfance.
Peut-être parce que au départ le cinéma était le livre d'images considéré comme le merveilleux donné aux gens. On
Tout
oublie
à fait.
toujours que le cinéma après, si on prend en Europe, le cinéma en dehors des fêtes foraines où on le passait, tout ceci, cela, il y avait des tourneurs, il y avait des gens qui dans les
Non, non, il y a
villages
parti
montraient les
dans la
Méliès,
mais de
montraient.
voir et de reconnaître un peu, sans que la police vous en fasse, de reconnaître le réel sous une forme de photo d'identité et pas une simple image policière, effectivement, il y a ce côté, ah, c'est merveilleux,
Oui.
regarde, là, c'est Tantalis, quelle merveille.
Mais alors, là, tout le cinéma s'est défini par les frères Lumière, parce que quand les spectateurs des frères Lumière se voyaient, eux, à la sortie des usines Lumière, ah, c'est moi, ah, c'est toi,
Ben oui.
et après, il y a un train qui arrive et ils se cachaient, ils avaient peur. Alors qu'ils avaient bien vu que c'était faux.
Non, non, qu'ils reconnaissent qu'ils ont existé et qu'est comme ça après. Mais ça,
Et
ce
la
côté
terreur.
enfance doit être face à.
Et là encore, l'enfance, on aime
Dès le
avoir
départ,
peur.
il est parti de. Oui, le petit dernier, mais c'est l'enfance de l'art.
Mais l'enfant aime avoir peur
C'est
aussi. Et
l'enfance
le
de
cinéma a
l'art.
fait
Tout
peur.
à fait, oui.
C'est-à-dire que
Oui.
je crois que c'est Cocteau qui disait que les contes de fées avec les ogres et tout sont les romans érotiques des enfants. C'est ce qu'il disait. Et c'est vrai que le cinéma, il a été soit documentaire au départ, avec une part de merveilleux, soit il a voulu terroriser, très vite.
Cocteau, c'est celui qui a dit quand même qui a eu le plus de formules comme ça que d'autres sur le cinéma qui définissait beaucoup, que beaucoup de cinéastes, que beaucoup de qui a le mieux théorisé d'une manière assez ludique de penser comme ça sur le cinéma. Il y en a
Peut-être parce qu'il avait.
énormément.
Peut-être parce que,
C'est
comme.
sa qualité, je veux dire.
Oui,
Si
mais.
à ceux qui en disent du mal, il faut opposer ça.
Mais il avait
Il en
connu.
a dit 10 fois plus, 100 fois plus que nous tous, que Marguerite, que Bazin,
Que
même d'une
Duras.
certaine manière.
Oui. Oui, mais lui, il avait connu tous les arts aussi.
Aussi, oui,
Pratiqué.
voilà.
Et là, on touche à un autre point, c'est que ceux qui ont été les premiers artistes, entre guillemets, du cinéma muet, disons, noir et blanc. D'où venait-il? Lubitsch venait du théâtre, Fritz Lang venait de la peinture et de la sculpture, Eisenstein venait d'ailleurs également, disons, je crois, de la peinture et du music-hall, si j'ai bonne mémoire, et du théâtre. C'est-à-dire que c'était des gens qui ne venaient pas de nulle part. C'est des gens qui arrivaient avec une pratique de réflexion sur le cadre au théâtre, sur la lumière et
Ben
tout cela.
Cocteau, il venait de partout.
Ils venaient de
Et
partout.
il s'est trouvé là, du reste. Et
Et.
comme beaucoup de gens, presque comme Marguerite, même ceux qui ont. Ben c'est la phrase de Bresson, celui qui a connu le cinéma ne peut plus entrer ailleurs.
Mais là, on touche autre chose, c'est que Cocteau était peut-être,
Ça a disparu.
Cocteau qui apparaît souvent dans les histoires du cinéma, était peut-être le seul qui revendiquait dès le départ, comme il disait, poésie de cinéma, le mot de poésie, alors que les autres étaient des poètes qui se cachaient de l'être ou qui ne le savaient pas. Et ça, on touche l'élément de la poésie qui est d'abord la sensation. Et donc, enfance de l'art, pourquoi cet art ne vivra que 100 ans à votre avis alors?
Non, tel qu'on l'a connu, tel pourquoi il est né, parce qu'il est profondément lié à. Ensuite, ça sera autre chose. Il a commencé comme un petit industriel et comme ça, et puis après, maintenant, il fait partie d'autres choses. Il n'est plus.
Le plus sincère.
Il est être, il ne peut plus. Il le sera peut-être comme ça. En tout cas, c'est une époque. Et puis, parce que 100 ans, c'est un siècle, c'est une génération qui va du début à la fin et que lui a fait son parcours pour aller du début à la fin. Maintenant, il doit y avoir, je dirais, le fils du cinéma. On est à l'époque du. Maintenant, ceux qui font des films sont les plus jeunes, sont les fils et les filles, sont les enfants du cinéma. Alors, l'ennui, quand on voit leurs films, c'est que c'est des enfants qui ont oublié cet état d'enfance et qui ont oublié que leurs parents ont vécu. Ce que des peintres, des fois, ne font pas, font moins, je crois, et qui sont quand même au courant de l'histoire de la peinture,
Oui,
grosso modo.
oui, absolument.
Alors que les gens qui font du cinéma ne sont pas au courant de l'histoire du cinéma ou d'une manière un peu très égocentrique comme Scorsese ou comme ça, qui n'est pas généreuse pour les autres.
C'est Philippe Garrel qui m'avait dit un jour, tu sais, le problème des jeunes qui font des films maintenant, c'est pas leur faute, c'est qu'ils n'ont pas eu la chance comme nous de découvrir Murnau chez Langlois.
Oui, mais ça,
Je crois
c'était
que ça dit tout.
exceptionnel. Même Scorsese a découvert Murnau chez moi, si j'ose dire, à l'université. Non, non, il n'y a pas eu de transmission et de filiation. Donc il y a quelque chose qui est mort.
Est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'enfance?
Ensuite, il y aura autre chose.
Est-ce qu'il n'y aurait pas eu
Et
d'enfance
ces
chez eux?
gens-là n'ont pas eu. Et si, mais ils l'ont oublié, alors. Je ne sais pas.
Mais il y a une chose moi qui me semble importante si on reste sur l'idée
Et se
d'enfant.
comporte en adulte tout de suite.
Oui, c'est ça, mais si on reste sur l'enfance, un enfant aime les cadeaux, il aime les paquets, pour les faire le paquet, voir le cadeau. Il aime les cadeaux. Le cinéma avant, c'était un cadeau. On vous emmenait au cinéma.
Tout à
C'était une
fait.
surprise. Les images étaient un cadeau.
Tout à
Aujourd'hui, la
fait.
télévision, 24 heures sur 24 chez les gens, fait qu'il n'y a plus de cadeaux, vu que les images sont là tout le temps.
Oui,
Même si ce n'est
et
pas des
puis c'est
bonnes.
lié à à voir, mais voir était très lié en français, le français. Est une des langues où la France est un pays très intéressant, même aujourd'hui, du fait qu'elle a perdu sa domination mondiale et qu'elle est. Mais que c'est là où se passent les signes,
Oui.
plus que d'autres pays pendant encore un certain temps.
Peut-être l'Allemagne
C'est
aussi.
là que les signes sont et que la langue française permet plus de. Si on la regarde dans la voix, chaque langue a sa particularité et permet certaines choses, certaines pensées. La langue française permet plus que les autres car elle permet d'écouter l'autre langue sans perdre la sienne. Elle est beaucoup plus généreuse tout en restant stricte car elle vient du latin et d'autres choses. Donc, si on dit dans voir, il y a le mot voix a le même son aussi. Si on le lit, les gens vous disent non, pas de rapport, faut pas confondre. Or, il faut confondre ce qui ne peut pas être confondu, juste pour pouvoir raisonner. Le français est une langue très intéressante là-dessus.
Mais ce qui moi me paraît, Jean-Luc Godard, aujourd'hui très curieux, c'est que cette enfance de l'art du cinéma ne se, contrairement à ce qu'on pourrait
Quand on
espérer.
allait voir des films chez Langlois, on entendait, on écoutait.
Oui.
Et qu'il y a encore des fois dans des projections, ce qui impressionne les gens et l'attaché de presse vous dit, ah, le film va marcher, comme ça, il y avait une qualité d'écoute. Mais ça, c'était la première chose chez Langlois, c'était le silence, le petit ronronnement du projecteur mais il y avait du son, on entendait des voix d'autres fois, c'était très.
Et même
Et
parfois.
c'était pas religieux parce qu'il n'y avait pas de
Non, non,
sermon.
non.
Il n'y avait pas de sermon, c'était plus proche du clan ou d'autres choses comme ça.
Et on acceptait même un film non sous-titré
Mais
dans une
ça, c'était
langue.
très. C'est l'unicité de la.
Non, mais on
C'est
écoutait
ce
le.
que la nouvelle vague a eu d'unique, mais c'était un phénomène disons historique, qui est daté à
Oui, mais.
un moment précis, qui fait qu'aujourd'hui la nouvelle vague dit on était et les enfants du musée et les enfants de la libération, historiquement. Mais on venait du musée, les autres gens n'ont pas découvert le cinéma au musée, nous si. Et le musée, du reste, était un cinéma.
Mais on écoutait, je veux dire que quand Langlois passait une copie d'un film de Mizoguchi non sous-titré,
Ah oui, tout à fait, mais on
on écoutait le
écoutait.
son parce qu'il faisait partie du
On
film.
était tout à fait. Moi encore, j'ai gardé ça. Des fois, je suis content si j'y arrive, de ne pas lire les sous-titres, d'arriver à ne pas lire les sous-titres et d'essayer de comprendre ce qui se dit. Même en perversion, comme je ne supporte pas la télévision, quand je regarde quelquefois le journal télévisé, je mets muet.
Mais c'est des fois plus révélateur.
Je mets muet, puis je me dis, ah, il doit, à mon avis, il parle de ça. Et puis après, j'arrête. Ou le tennis, que j'aime beaucoup, mais alors je ne supporte pas le commentaire de Jean-Paul Lotte ou de X, alors je le mets muet. Ou j'essaye de trouver sur une chaîne allemande où je ne connais pas.